Alors aujourd'hui, le micro est trop fort. Oui, une petite résonance. On va attendre ça. C'est bon? En fait, j'attends encore quelqu'un. Et c'est quelqu'un d'important. Je sais qu'il va venir et j'aimerais bien qu'on l'attende avant que je commence. Ça vous dérange pas? Françoise, comme c'est quelqu'un d'important qui... Franchement, j'attends que ça vienne. Est-ce que ça t'embête si on enlève ses affaires? Non, comme ça, il pourra s'asseoir là quand il viendra. Voilà, merci. Mais tu peux te remettre à côté, hein. C'est juste voilà qu'il y a une place. Voilà. J'espère qu'il ne va pas en prendre trop de temps.
Tu voudrais que j'aille à la porte?
Non, mais il connaît le chemin, je pense qu'il va trouver. Comment? Une belette en attendant? J'ai combien de temps avant pour la prédication?
Le câble sera tiré à minuit pile.
On attend encore 2 minutes?
Oh, 2 minutes, c'est long, hein?
C'est long?
Quand on attend.
C'est une femme qu'on attend.
Non. Alors, petite idée, qui est-ce que j'attends? C'est ça.
Le Messie.
Le Messie. Est-ce que vous croyez qu'il va encore venir?
Il est là déjà. Il va revenir.
Oui, il m'a dit qu'il reviendrait. Hein.
Il est là déjà au début.
Et cette histoire du retour alors? Du coup, on l'attend plus? Non?
Il est là spirituellement. Il va revenir un jour pour de vrai. C'est-à-dire que tout le monde le verra.
Donc on l'attend.
On l'attend. Oui, on l'attend.
Ok. Bon, je vais peut-être commencer le message quand même en l'attendant. Vous êtes d'accord?
Il peut se vendre dès qu'il arrive. Hein.
Voilà. On lui a laissé une place au cas où il vient. Il pourra s'asseoir, on lui a laissé une place. Bon. Le message ce matin que je voudrais vous partager, c'est, je l'ai intitulé, « Le rendez-vous amoureux, je passerai te chercher ». Et il va baser sur la parabole qui se trouve en Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors, ce passage, je l'ai choisi parce que, comme Françoise l'a indiqué, nous entamons une période qui s'appelle l'Avent. Et pour tous ceux qui ont des soucis avec l'orthographe comme moi, il faut faire attention, parce que l'Avent ne s'écrit pas comme avant Noël, n'est-ce pas, avec un A. L'Avent s'écrit avec un E. Autant vous dire que la nuance de la langue française est infinie. Et comme je suis curieuse, j'ai cherché d'où vient ce E, n'est-ce pas? Parce que l'Avent est avant Noël, mais ça s'écrit avec un E, totalement logique. Et en fait, ça vient du mot latin adventus, qui signifie la venue, l'arrivée. Alors vous vous dites, logique, on attend Noël, l'arrivée de Jésus. Alors, l'Avent est effectivement une période d'attente. Vous ne trouverez aucune fois le mot « avant » dans votre Bible, inutile de chercher. Comme vous ne trouverez aucune fois le mot « Noël » dans votre Bible. On ne parle même pas de l'anniversaire du Seigneur. Et on sait tous qu'il n'est certainement pas né un 25 décembre. Pourquoi alors l'Avent? Pourquoi alors Noël? Noël, ça semble une évidence. Se rappeler que Dieu est venu et s'est fait homme, c'est important. Mais pourquoi l'Avent? Alors mon fils vous dira, parce qu'à l'Avent, il y a des chocolats. Le compte à rebours commence. Le calendrier de l'Avent, les 4 bougies avant Noël, les achats de cadeaux, la cuisine. Je vois déjà les dames et les messieurs qui préparent dans leur tête le menu pour toute la famille. Tout doit être fin prêt pour le grand jour de Noël, de la naissance de Jésus. Eh bien, pas du tout. Dans la liturgie, l'Avent n'a pas été créé pour la naissance de Jésus. C'est quelque chose qu'on oublie, mais l'Avent n'a pas été créé pour la naissance qui a eu lieu, la venue qui a eu lieu. L'Avent a été créé en attente de son retour. Oui, nous attendons la venue de Jésus. Mais nous attendons pas sa venue en tant que bébé, il est déjà venu. La venue que nous attendons dans l'Avent, que l'Avent nous encourage à attendre, c'est pas un compte à rebours pour sa naissance, c'est une expectative de son retour. Alors, oui, et c'est ma première partie, vous avez rendez-vous avec Jésus. Vous avez un rendez-vous amoureux. Et pour en savoir un peu plus long, je vais vous lire ce passage en Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors, toutes les vierges se lèvent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Vous avez rendez-vous. Rendez-vous important. Dans ce passage, à votre avis, qui est l'époux? Ah, comment? Je l'ai entendu? Oui, c'est Jésus. Très bien. D'ailleurs, Jésus s'est déjà lui-même qualifié d'époux dans Matthieu 9. Cette image n'est pas nouvelle dans les paroles de Jésus. On distingue donc très bien qui est l'époux. Qui sont donc les 10 vierges? Alors, si on regarde un peu avant, dans Matthieu 24, on voit qu'il y a un verset qui dit « Alors le signe du Fils de l'homme, alors le Fils de l'homme c'est un autre nom pour Jésus, apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, des extrémités du ciel et de la terre. » Jésus revient, et pas n'importe comment. Il revient dans sa gloire. Il revient entouré des anges. Il revient comme l'époux dans le cortège festif qui va emmener son épouse chez lui. C'est comme ça que ça se passait dans la tradition juive. C'est pas les époux ne se côtoyaient pas beaucoup avant, mais au moment du mariage, l'époux allait chercher l'épouse et le ramener chez lui. Et donc sur ce passage, il y avait un grand cortège très festif. Et une fois qu'elle était chez lui, on faisait la fête. Jésus veut vous emmener. Vous avez rendez-vous avec votre amoureux céleste, si je puis me permettre l'expression. Quand il reviendra, ce sera pour vous chercher. Notre parabole, cependant, ne compare pas l'Église à l'épouse. Intéressant, n'est-ce pas? On pourrait s'attendre à ce que, ici, Jésus parle de l'épouse, mais en fait, l'épouse est totalement éludée. On n'en parle pas. On parle par contre des demoiselles d'honneur. Il y en a 10. Les 10 vierges. Alors, cela, à mon avis, permet de faire ressortir des individualités. Si Jésus avait parlé de l'épouse, ça aurait englobé tous les chrétiens en un bloc, comme s'ils étaient tous pareils. Mais vous savez, vous et moi, qu'on est tous différents. Et voilà que Jésus parle des demoiselles d'honneur pour montrer la diversité au sein de l'Église. Il y a 10 vierges. Pourquoi 10? J'ai montré tous mes doigts. J'en ai pas plus. 10 est tout simplement un nombre qui indique la totalité. Jésus parle de la totalité de l'Église. Je vous ai montré mes 10 doigts. Mais Jésus parle pas juste des 10 vierges, il parle de 5 vierges folles ou insensées et 5 vierges sages. J'aurais dû faire folles et sages. Parce que 5 est un chiffre d'opposition. On a 10 dans sa globalité, mais on a bien 5 doigts sur chaque main. Je pense pas que Jésus dise que 50% des chrétiens sont insensés. J'espère pas. Non. Je pense qu'ici, il veut bien mettre l'opposition entre les insensés et les sages. Il faut savoir que, pour les juifs, la gauche est le chemin des insensés. Vous trouverez ça dans Ecclésiaste. Le cœur des insensés suit le chemin de gauche. La droite, c'est le chemin des sensés. Je pense que ces chiffres ont à peu près ce sens. Je me permets de poser ça comme ça. Alors, on a planté le décor. Il y a l'époux, il y a les vierges. Vous avez un rendez-vous amoureux. Mesdames et messieurs, que fait-on quand on a un rendez-vous amoureux? On se prépare. Oui, les plus jeunes, vous pouvez écouter, ça vous arrivera certainement un jour. J'espère. On se prépare. Je suis sûre que vous avez déjà vu peut-être vos parents, vos grandes sœurs, vos oncles, vos tantes se préparer pour un rendez-vous. On se prépare. Pas n'importe comment, n'est-ce pas? Mesdames, à quoi fait-on attention? Maquillage, coiffure, vêtements, tenues. Messieurs, juste le sourire. Oui. Alors, vous vous imaginez, vous vous préparez pour votre rendez-vous amoureux, effectivement. Vous pensez à ces choses-là. Bien, ici, on ne parle pas de la mariée. On peut s'imaginer qu'elle était en train de s'habiller, se coiffer. Mais les dames, demoiselles d'honneur, à votre avis, oui, elles sont allées en habit de tous les jours? Au rendez-vous pour attendre l'époux? Non. Moi, j'étais demoiselle d'honneur une fois. Bah, j'avais besoin d'une robe spéciale, n'est-ce pas? Ma coiffure a duré un certain temps, n'est-ce pas? Et j'ai fait bien attention à mon maquillage. Pourtant, est-ce qu'on trouve trace de tous ces préparatifs? Non. Pas du tout. Et peut-être que ce verset va vous donner une idée pourquoi. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand vous avez rendez-vous, un rendez-vous amoureux avec Jésus, vous pouvez laisser votre belle tenue à la maison. Les femmes se disent, ouf, pas de talons d'aiguille. Le jour du retour, je pourrais y aller en mocassin. Ce sera plus confortable, non. Mais par contre, faites attention à l'état de votre cœur. Mais ce cœur, on n'en parle pas non plus, vous me dites. De quoi parle-t-on? De l'huile et des lampes. Et dans votre tête, ça fait tilt. Vous vous dites, cette histoire de lampe, je l'ai déjà entendue, n'est-ce pas? Et oui. Et dans la tête des auditeurs de Jésus, ça fait tilt aussi, parce qu'ils se disent, sermon sur la montagne, attention, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Alors, je trouve que cette image est très bien choisie. Parce que quand on est amoureux, on est tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? Pour son ou sa dulcinée. Moi, quand j'étais amoureuse de Maxime et que nous sommes sortis ensemble, je ne pouvais pas le cacher. C'était pas possible, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, tout le monde le savait. D'ailleurs, tout le monde savait avant moi que j'étais amoureuse, ça se voit tellement que...
Oui, je comprends.
D'ailleurs. Mais j'avais pas envie de le cacher non plus, que j'étais amoureuse. Quand on devient chrétien, c'est un peu la même chose. Souvenez-vous. Pour ceux pour qui ça date. Souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes rendu compte de l'amour de Jésus. De ce que signifiait vraiment son amour.
Ça fait déjà...
Ça fait long. Ça fait longtemps.
Ça fait des jaloux.
Ça fait des jaloux. Mais... Moi, je me souviens de certains visages rayonnants de gens qui se sont convertis. Ça se voit. C'est fou, ça se voit. Et nos vies vierges, elles brillent dans la nuit. Elles brillent toutes, j'allais dire, pareil au début. Elles ont toutes le feu. Est-ce que vous avez ce feu? Est-ce que vous êtes encore amoureux de Jésus? Vous avez un rendez-vous amoureux, et dans ma deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? Et on peut appeler cette partie « En attendant Jésus ». Vous connaissez la pièce « En attendant Godot » Quelle attente, n'est-ce pas? En attendant Jésus, mais on sait que Jésus va arriver. L'époux tarde à venir. Et là, messieurs, ne faites pas comme Jésus, n'est-ce pas? Ne dites pas à votre dulcinée « Je passerai te chercher » en la laissant poireauter de 9h à minuit. Elle le prendrait très mal. Mais vous n'avez peut-être pas d'aussi bonnes excuses que Jésus. Jésus n'a pas une excuse. En fait, si Jésus tarde, si l'époux tarde, c'est pas parce qu'il est en retard. C'est parce que l'épouse n'est pas prête. Vous vous imaginez l'époux débarquant chez l'épouse et elle est à moitié habillée? Inimaginable! Inimaginable! Alors, c'est Pierre qui nous dit ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si Jésus ne revient pas, c'est pas parce qu'il est en retard. C'est parce qu'il est patient. Parce que nous sommes en retard. Peut-être pas vous. Mais peut-être que quelqu'un d'autre que Jésus aimerait emmener avec lui n'est pas prêt. Que font les vierges? Elles s'endorment. Combien s'endorment? Toutes. Est-ce que Jésus semble juger le fait qu'elle s'endort? Pas du tout. Pas du tout. J'allais dire, elles font bien de s'endormir en attendant l'époux, comme ça elles pourront danser plus longtemps après. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter notre vie, de faire une parenthèse jusqu'à son retour. Dormir est un besoin physiologique. Elles ont besoin de dormir. Mais elles ne dorment pas de la même manière. Elles ne dorment pas de la même manière et ça se voit. Que se passe-t-il? Elles s'endorment et elles se réveillent. D'ailleurs, est-ce qu'elles se réveillent les unes en se disant « ça y est, il devrait être là ». Non, non, non. Elles s'endorment toutes et s'il n'y avait pas le héros du prince charmant qui crie « aïe, 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 réveillez-vous, il est là, allez, allez, on se lève », ce serait resté endormi, hein. Oui, l'Église a besoin de la trompette retentissante. Elle a besoin des anges. Elle a besoin des signes avant-coureurs. Je ne vous les énumère pas, vous pourrez les lire dans le chapitre qui est juste avant, Matthieu 24. Mais à ce moment-là, soyons prêts. Quand ça arrivera, soyons prêts. Que s'est-il passé? Je pense qu'elles n'ont pas dormi de la même manière. Parce que quand les unes se sont réveillées, elles se sont dit « mince, nos lampes sont en train de s'éteindre ». Elles ne s'étaient pas éteintes, mais elles étaient sur le point de s'éteindre. Les autres, elles ont regardé leurs lampes et elles se sont dit « bon, on y va ». Les lampes des unes sont en train de s'éteindre, voire elles se sont éteintes pour certaines peut-être. Les autres ont la lampe qui continue à briller. Mes amis, la foi, Paul la compare à une course. Mais ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Peut-être même un 100 km. J'ai mon beau-père qui court 100 km régulièrement. Je peux vous dire, il faut du moral. Dans la lettre à Timothée, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Oui, ça veut dire qu'il aurait pu la perdre. Il s'agit de garder la flamme allumée. Et vous, dans votre vie chrétienne, vous êtes parti pour un sprint? Comme les 10 vierges insensées qui se sont dit, oh allez, comment? Les 5 vierges insensées qui se sont dit, oh là là, allez, on est au début de la soirée, il viendra pas trop tard quand même. On peut y aller juste avec notre réserve qui est dans notre lampe, on n'a pas besoin de se trimballer le gros bidon. Où est-ce que vous êtes parti pour un marathon? En vous disant, moi, je veux garder la foi jusqu'au retour. Moi, je veux être parmi ceux qui ont la flamme allumée de la même manière quand Jésus reviendra. Alors, les 5 vierges qui étaient folles avaient juste leur réserve dans leur lampe et les 5 vierges qui étaient sages avaient la même réserve dans leur lampe. C'était un peu des lampes standards. Comment est-ce qu'elles ont fait, elles, pour que leur flamme ne s'éteigne pas? Elles n'ont pas dormi de la même façon. Permettez-moi de faire une parenthèse imaginative qui n'est pas dans la parabole. Est-ce que vous avez déjà été dans un camp, scout, et avez été responsable du feu? Non? Le but, c'est que le feu ne s'éteigne pas. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, il faut l'alimenter. D'accord? Si pendant que vous dormez, votre feu s'éteint, vous pouvez le rallumer parce que vous avez un briquet. Bien. Ou des allumettes. Oui. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas si simple. Il fallait remettre de l'huile avant que ça ne s'éteigne. Et comment est-ce qu'on fait quand on dort pour savoir combien d'huile reste? S'il y en a assez? Je pense, c'est une hypothèse, qu'elles ont dû se réveiller entre temps pour vérifier l'état de leur lampe. Parce que les vierges folles, leur lampe s'est éteinte. Les vierges sages, elle est restée allumée. C'est-à-dire que les sages ont dû mettre de l'huile entre-temps pour qu'elle reste allumée. Elles ont dû faire le check-up, entre guillemets, de leur lampe. Est-ce que vous pensez de temps en temps à vérifier l'état de vos lampes spirituelles? Est-ce que vous avez encore assez d'huile pour que votre flamme continue? ou est-ce que vous vous dites, le retour du Christ, c'est pas pour demain? Ça fait presque 2000 ans qu'on l'attend, n'est-ce pas? La probabilité qu'il arrive dans la seconde qui suit, disons que c'est peu probable. J'ai du temps. Je suis fatiguée, je vais dormir un peu. Où est-ce que vous vous dites? Bon, on sait jamais, Jésus peut revenir, je fais le point. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Jésus? Est-ce que je brûle encore pour lui? Est-ce que s'il revient maintenant, il va dire, waouh! Karen, elle a un amour qui est vraiment ardent. Ou alors est-ce qu'il va dire, ouf! T'es sûr que tu m'aimes? Oui, tu me connais, je suis sûre, mais t'es sûre que t'es amoureuse de moi? Est-ce que vous croyez que l'époux va chercher des gens qui sont pas amoureux? À l'époque de Jésus, certainement. Mais Jésus, son mariage est basé sur l'amour. De nos jours, ça semble, dans nos cultures, peu probable que des gens se marient qui ne sont pas amoureux. Vous êtes d'accord? Que des gens se marient en étant un petit peu amoureux, en se connaissant. Oui, j'étais amoureux de lui quand j'étais au lycée. Vous pensez que vous allez le marier si vous étiez amoureux de lui il y a 10 ans? Quelle idée! Ça vous viendrait plus à l'esprit? Il faut être amoureux au moment de le marier. Si c'était il y a 10 ans, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Si vous étiez amoureux de Jésus il y a 10 ans, c'est très bien pour vous. J'en suis heureuse pour vous. Mais posez-vous la question. S'il revient pour vous marier, pour vous emmener avec lui pour l'éternité, est-ce que vous êtes toujours amoureux de lui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et là, les vierges folles, elles ont une idée. Allez, vous êtes sympa. On n'y a pas pensé, franchement. Vous pouvez bien nous donner un petit peu de votre huile. La réponse est cruelle. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous me dites, et où l'esprit du sacrifice chrétien là-dedans? Ben, il n'y en a pas. C'est de la logique. Mais c'est aussi une question de, elles ne peuvent pas en donner, elles donnent un bon conseil. Elles disent, allez en acheter chez le vendeur. Soit dit en passant, elles réussissent à en trouver, hein, de l'huile. Je sais pas quel vendeur avait ouvert à minuit, en plein milieu de la nuit. Mais bon. Là, comment? La race du coup. Il y avait peut-être du 24-24. Déjà à l'époque. Alors. Elles arrivent à en trouver. Effectivement, le salut s'achète. La Bible nous le dit. Alors, effectivement, il ne s'achète pas comme on pourrait le penser. La Bible dit, vous pouvez acheter de l'or purifié sans argent. Chez qui pensez-vous qu'elles doivent aller? Comment est-ce qu'on achète la flamme? Comment on achète l'huile pour être sauvé? Alors là, je vous parle d'entretenir la flamme. En fait, vous avez aucune idée comment faire. Pas d'idée. Comment entretenir la foi? Comment entretenir la ferveur pour Christ? Je vous pose une réelle question.
En étant en relation.
En étant en relation constante avec lui. Ok.
Déjà en
se nourrissant de sa parole.
Alors, toutes vos réponses sont bonnes. C'est la bonne réponse. Oui. Être amoureux de quelqu'un, ça s'entretient en parlant à la personne, vous êtes d'accord? En voyant la personne. Le souci avec Jésus, c'est qu'on ne le voit pas. À l'heure des nouvelles technologies, les jeunes vont vous dire, pas de souci, Internet! Le téléphone illimité! Eh ben, au niveau spirituel, ça existe! Ça, c'est la bonne nouvelle! L'illimité vers le ciel, excusez-moi, mais Dieu l'avait inventé à la création du monde! C'était pas SFR, c'était Dieu qui l'a inventé l'illimité. J'avais une sœur qui, sans illimité, passait des heures au téléphone avec son petit copain. Qui se trouvait à Nevers à l'époque. Et qu'elle voyait juste aux vacances. Elle est sortie avec lui en quatrième. Ils sont toujours mariés. Et pendant tout son collège, pendant tout son lycée, pendant le début de ses études, c'était tous les jours au moins une heure. On savait qu'entre 8h et 10h du soir, c'était dur de joindre la famille Jeunet sur la ligne fixe. Parce que une de mes sœurs était au téléphone. Oui, et ben posez-vous la question, communiquez-vous assez dans votre couple avec Jésus? Et la communication, mes amis, c'est bilatéral, n'est-ce pas? C'est pas Jésus, je te prie, je te demande ceci, cela, 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 n'est-ce pas? Non. Oui, il y a une ligne illimitée vers le ciel, et il y a l'illimité vers la terre. Prenez la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la parole de Dieu. Dans une relation, puisez votre force dans la parole de Dieu. Et vous avez un atout, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui joue dans votre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit. Et là, tous ceux qui ont entendu les histoires bibliques depuis un certain temps, se disent, ah oui, effectivement. D'ailleurs, il y a un truc qui me rappelle l'esprit là-dedans. Cette histoire d'huile. Là. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ce serait trop facile. Mais effectivement, l'huile symbolise l'onction. L'onction est symbole de la présence de Dieu en nous. À l'époque, avant Jésus, les gens qui étaient oints étaient les personnes sur lesquelles reposait l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous recevons Jésus dans son cœur, nous sommes oints du Saint-Esprit. Il habite en nous. Alors, là, ça vous me dites, c'est louche. J'ai le Saint-Esprit qui habite en moi. Qu'est-ce que ça change? Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu qui parle en vous. Sans Bible, sans prière, vous avez la voix de Dieu qui parle en vous. Mais attention, encore faut-il l'écouter. Encore faut-il tendre l'oreille. Parce que cette voix qui parle en vous, Dieu qui parle en vous, Dieu qui veut agir en vous, vous pouvez très bien vous opposer à son action. Vous êtes totalement libre. Vous avez l'Esprit en vous, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette relation avec le Saint-Esprit et de écouter ce qu'il vous dit. Est-ce que vous écoutez le Saint-Esprit? Est-ce que vous écoutez les paroles d'amour que Dieu place dans votre cœur? Est-ce que vous êtes ouvert à l'action de Dieu dans votre vie, dans votre cœur? Alors, effectivement, vous me dites tout à l'heure, les cinq vierges sages n'ont pas voulu donner de leur huile. Peut-on donner le Saint-Esprit à quelqu'un? Peut-on donner le salut à quelqu'un? Non. Par contre, vous pouvez donner le feu. Si les lampes s'étaient juste éteintes, parce qu'elles avaient oublié de remplir la réserve, de les re-remplir, et qu'elles avaient encore une réserve, les cinq vierges sages auraient pu rallumer leurs lampes. Si votre amour pour Jésus s'est éteint, mais que vous vous dites, je vais encore acheter de l'huile avant l'arrivée de l'époux, mais par contre, zut, ma lampe s'est éteinte. Il faut la rallumer maintenant que j'ai de l'huile. Allez voir un frère et une sœur et rallumez votre amour pour Jésus avec lui. Parce que si la foi ne peut pas se transmettre, si le salut ne peut pas se transmettre, l'étincelle peut se transmettre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelqu'un vous a transmis cette étincelle. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelqu'un a placé ce feu dans votre cœur. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui accorde le salut. C'est Dieu qui accorde le Saint-Esprit. Mais souvent, l'étincelle, elle vient de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes prêts, vous qui êtes encore ardent pour le Seigneur, à transmettre ce feu à quelqu'un? La fin de l'histoire est tragique, vous êtes d'accord? C'est le genre d'histoire qu'il vaut mieux pas lire quand on est déprimé. Si vous êtes comme moi, il y a certains films que vous ne regardez pas quand vous êtes déprimé ou fatigué. N'est-ce pas? Quand on choisit les films le soir, la catégorie tragique est éliminée dans mon choix en tout cas, parce que sinon je suis une vraie madeleine, c'est horrible. N'est-ce pas? La fin est tragique. Quand vous voyez Jésus là-dedans, vous vous dites « Je pensais que Jésus c'était l'amour. Et qu'en est-il de la grâce? Est-ce vraiment Jésus qui dit « Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Parce que là, ils ont frappé et il n'a pas ouvert quand même. Hein. Mais l'Ecclésiaste nous dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la grâce, et il y aura un temps pour le jugement. Si Jésus tarde à venir, c'est que nous sommes encore sous la grâce. Mais il y a un temps pour tout. La grâce de Dieu est immense. Mais le jugement de Dieu viendra aussi certainement que la grâce est pour maintenant. Vous ne savez pas combien de temps le temps de grâce durera. Si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui a tendance à procrastiner. La procrastination spirituelle est une prise de risque que je ne vous engage pas à prendre. La procrastination spirituelle est dangereuse. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça vaut autant pour ton job que pour ta vaisselle et surtout pour ta vie spirituelle. Tu ne sais pas quand Jésus reviendra. Tout à l'heure, il y en a certains qui ont souri, ont dit « Je sais qui est-ce qu'elle attend. » Oui. Et s'il revenait? Maintenant. Comment est-ce qu'il trouverait ta lampe? Je vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis pas ça pour vous dire « Dieu est un Dieu méchant, il viendra pour juger le monde. » Non. Je vous dis, Dieu a préparé un festin de noces pour toi. Jésus compare l'Église à son épouse. Il veut l'emmener au ciel. Il veut la chérir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alors, je veux finir avec une parole que vous trouverez dans l'Apocalypse. Apocalypse 22, à partir du verset 10. Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et je veux dire, il est plus proche que quand vous vous êtes converti. On avance toujours plus vers le retour du Christ. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Et là, vous me dites, je comprends pas. Mais là, je vous rappelle, c'est le temps de la grâce. Oui, il y a encore des péchés qui se font. Et on peut dire, c'est horrible, il y a encore des péchés qui se font. Mais s'il y a encore des péchés qui se font, c'est parce que c'est le temps de la grâce et qu'il y a encore des gens à sauver. Alors là, c'est la partie qui nous intéresse. Mais que celui qui pratique la justice pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange et j'atteste ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David, le descendant, l'étoile brillante du matin. Et là, on fait le lien avec Noël. L'esprit et l'épouse. Vous vous souvenez qui est l'épouse? C'est nous l'épouse. Ils disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de vie, la prenne gratuitement. Oui, vous avez encore le temps de venir. Ici, on parle de l'eau, mais ils auraient pu mettre l'huile à la place. Vous avez encore le temps de remplir vos lampes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous priez? Jésus, viens! J'ai envie que tu viennes à ce fichu rendez-vous amoureux. J'ai envie de partir avec toi. Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui dorment? Qui s'en fichent? Qui n'y croient plus? Je vous propose de faire le check-up de votre lampe. Un de ces jours. Prions. Jésus, je veux te remercier de cette belle promesse que tu reviendras nous prendre. Je veux te remercier également pour ce temps de grâce. Je veux te remettre toutes les personnes que tu veux encore sauver. Je veux te remettre aussi nos cœurs à chacun. Tu vois l'état dans lequel nous sommes. Tu vois où en est notre amour avec toi. Seigneur, tu peux rallumer ce feu. Tu peux remplir nos lampes. Et Seigneur, viens, nous attendons ton retour. Viens dans ta gloire, viens dans ta splendeur, viens nous prendre avec toi pour cette merveilleuse éternité que tu nous promets. Amen.